Et je ne bouge plus. Alors, donc moi je suis géologue, et c'est peut-être la première fois que je parle à des physiciens qui savent sans doute beaucoup plus de choses en physique que moi. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Si j'en dis, ben vous me pardonnerez. Donc on va parler de Saturne, et pourquoi est-ce qu'on va parler de Saturne aujourd'hui? C'est parce que 2004 et 2008 sont, j'appelle les années saturniennes, vu qu'il y a une sonde, la sonde Cassini, qui s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004 et qui va y rester fonctionnelle, si tout va bien, jusqu'en 2008. Et en janvier 2005, il y a la partie européenne de la mission, la partie Huygens, qui s'est posée sur Titan, un des satellites de Saturne. Alors avant, qu'est-ce qu'on savait sur Saturne? Avant de parler aux résultats actuels, qu'est-ce qu'on savait sur Saturne? Disons, qu'est-ce que j'aurais fait comme conférence si je l'avais fait il y a 4 ou 5 ans? J'aurais rappelé que Saturne est une planète visible à l'œil nu, que les anciens avaient remarqué 5 astres qui ressemblent à des étoiles, mais qui se déplacent sur le fond des étoiles. C'est ça qu'ils avaient appelé les planètes, astres errants. Là, c'est un montage que j'ai fait. On imagine Saturne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est ces astres errants que les anciens appelaient des planètes. En 1610, Galilée pense à pointer sa lunette vers les astres. Et une des premières choses qu'il regarde, ce sont les planètes. Et il les regarde toutes, hein, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et Saturne, il a la surprise de voir que, contrairement aux autres planètes qui sont soit des disques, soit des croissants, comme la Lune, il voit que Saturne a des espèces denses. Alors, il ne comprend absolument pas ce que ça veut dire, ces espèces de machins qu'il voit à côté. Alors, à l'époque, quand on faisait une découverte, on la publiait, mais comme on ne voulait pas se la faire piquer, on a publié un anagramme. Comme ça, on avait la paternité sans dire aux autres qui se passait, et on pouvait continuer la recherche. Alors, il a publié cet anagramme-là, ce qui, mis dans l'ordre, signifie, là, je ne vais pas prononcer le latin, je le prononce mal, ce qui veut dire, j'ai observé que la planète la plus élevée, Saturne, est trijumelle, donc pensez une grosse et une petite planète. Quelques années plus tard, à peu près 50 ans plus tard, Huygens comprend que ce que voyait Galilée avec son télescope grossier, c'était en fait des anneaux, qu'on voyait, suivant l'inclinaison relative entre la Terre et les anneaux, parfois par la tranche, parfois pas de face, mais presque. Et voici des dessins originaux de Huygens, qu'il a fait en 56, 57 et 59. Et Huygens est le premier à comprendre que Saturne a des anneaux. Quelques années plus tard, 1675, Cassini découvre que les anneaux que Huygens avait fait homogènes, que les anneaux sont hétérogènes et sont divisés en deux par une ligne noire qu'on appelle depuis la division de Cassini. Donc Cassini et Huygens étant deux des pères de l'observation de Saturne, c'est pour ça que la mission Cassini-Huygens s'appelle Cassini-Huygens. Alors, le télescope faisant des progrès, les observations font des progrès. Par exemple, en 1850, Bond découvre un nouvel anneau. Je vous rappelle, Cassini en trouve deux, un, deux. Bond en trouve un troisième, 1, 2, 3, et on a décidé de leur donner des lettres, l'externe A, B, C. Alors depuis, on décrira l'anneau D, l'anneau E, l'anneau F, l'anneau G. On continue à mettre l'ordre de l'alphabet en fonction de l'ordre de la découverte. Alors, dans les années 1900, un peu avant, M. Roche, M. Maxwell, M. Poincaré démontrent avec des équations de la physique à votre portée, à défaut d'être aux miennes, que des anneaux ne peuvent pas être des rubans solides, qui violeraient toutes les lois de Kepler, ni des films liquides. Ce sont forcément de très minces nuages de poussière et de microblocs et de glace. Ça, c'est pas Poincaré qui l'a découvert, on l'a découvert depuis. Donc les anneaux, c'est des poussières et des blocs de glace, chaque bloc, chaque poussière étant un microsatellite qui tourne pour son compte autour de Saturne. Alors voilà un dessin d'artiste, on n'a jamais évidemment pu prendre une photo comme ça, ce qu'on verrait si on était en plein milieu des anneaux de Saturne. On est dans une bande qui fait quelques centaines de mètres d'épaisseur et quelques milliers de kilomètres de large, une bande de blocs dont on ne connaissait pas bien la taille à l'époque où l'artiste a fait ce dessin. Alors on peut se demander quelle est l'origine d'un tel dispositif, ce nuage de poussière parfaitement plat. Alors, il y a deux origines absolument non incompatibles, qui, toutes les deux, sont dues aux forces de marée. Donc, M. Roche, physicien français, et Édouard de son prénom, a démontré qu'un satellite autour d'une planète, d'une étoile, était soumis à deux forces, la gravité, sa propre gravité qui maintien cohérent, et les forces de marée qui tendent à l'étirer. Alors, quand on est loin de son corps central, les forces de marée sont petites, elles sont inférieures aux forces de cohésion et d'attraction, la planète existe. Si on s'approche du corps central, les forces de marée deviennent de plus en plus grandes, la marée varie en 1 sur R3 et non pas en 1 sur R2, et passé une certaine limite, qu'on appelle la limite de Roche, en l'honneur de M. Édouard Roche, le satellite ou la planète se casse en morceaux. Alors voilà une figure, un petit dessin, un satellite, ça c'est Jupiter. Si ce satellite s'approche, évidemment en tournant autour de Jupiter, les forces de marée deviennent de plus en plus grandes, le satellite a tendance à devenir de plus en plus elliptique, et passé une limite, les forces de marée sont supérieures aux forces d'autogravité et de cohésion du matériel, le satellite se brise en plein de morceaux. Une autre image, un satellite qui s'approche dangereusement d'une limite de Roche, s'il franchit la limite de Roche qui est ici, eh bien il se casse en 1000 morceaux, vous voyez ici les 1000 morceaux qui sont dessinés, et ces 1000 morceaux vont faire un anneau. La deuxième façon de faire un anneau, c'est simplement faire une planète ou des satellites. Les satellites se fabriquent autour des planètes par agglomération de poussière. Les poussières ont tendance naturellement à s'agglomérer au-delà de la limite de Roche, mais évidemment en deçà de la limite de Roche, ils ne peuvent pas s'agglomérer. Donc les satellites de Saturne, ce soit des satellites faits à l'extérieur qui sont dangereusement rapprochés, franchis la limite de Roche, cassés en mille morceaux, soit des satellites qui auraient bien voulu se faire, mais comme ils étaient en deçà de la limite de Roche, ils n'ont pas pu se faire, et ils sont restés sous forme de rubans de poussière. Alors, on a vu que ces anneaux étaient divisés au moins en deux avec la division de Cassini. Quelle peut être l'origine de la division de Cassini? Eh bien, on s'est aperçu, toujours au XIXe siècle, que si on mettait un satellite virtuel dans la division de Cassini, quand il faisait un tour autour de Saturne, ben Mimas, qui est le satellite le plus proche, en faisait un demi, Encelade un tiers, il y a donc des résonances. Et si vous mettez, par exemple, un satellite artificiel en orbite autour de Saturne dans la division de Cassini, tous les deux tours, il aura Mimas juste à côté de lui, et ainsi de suite, et il sera gentiment expulsé par ce phénomène de résonance, ce qui explique qu'il y a un vide à cet endroit-là, et si on y met quelque chose, la mécanique céleste fait le ménage. Explication physique également du XIXe siècle. Alors toujours au XIXe siècle, peut-être début XXe, on a expliqué pourquoi les anneaux étaient forcément aplatis. Les anneaux sont des particules en orbite autour de Saturne, imaginez une particule qui fait comme ça, hein, qui tourne suivant l'orbite rouge, qu'on voit ici parfaitement par la tranche, une autre qui suit l'orbite bleue, qu'on voit également parfaitement par la tranche. Si elles ne se rencontrent pas, il n'y a pas de problème, elles continuent comme ça. Si elles se rencontrent et que les deux particules se collent, eh bien, la trajectoire, en admettant qu'elles soient de même taille toutes les deux, c'est un cas idéal, le mouvement résultant sera la somme des mouvements, donc ça fera, la trajectoire finale sera la trajectoire violette, et puis elle continuera à faire le tour. S'il y a un choc inélastique, ça ne se colle pas, il y a une partie de l'énergie, de la quantité de mouvement, disons, haut, bas et bas, haut, qui est absorbée par le choc, et il y aura rebond, que j'ai dessiné ici, mais le rebond ne sera pas comme un rebond idéal, où ça partirait avec un angle égal. Donc les chocs, choc inélastique ou choc avec fusion, tendent à rabattre toutes les particules dans un même plan, le plan des anneaux. Ça, c'est de la physique du 19e siècle. Alors au début du 20e, M. Encke a découvert une très fine division au sein de la NOA. La NOA, c'est le plus externe. Et durant les années 50 à 80, on a découvert au télescope deux nouveaux anneaux qu'on appelle E et G, sachant que F a été découvert par une sonde entre-temps. Donc le système saturnien fait des progrès. Et si j'avais fait mes conférences en 70, voilà ce que je vous aurais dit. Ben voilà Saturne, vous avez ici la Terre à la même échelle, hein, le globe saturnien, les anneaux qui font quand même, disons l'anneau A et l'anneau B qui sont ceux qu'on voit bien, ils font quand même 45 à 50 000 km de large, comme ça. Vous avez l'anneau C, l'anneau D, etc., etc., et des satellites dont on parlera beaucoup, Mimas, Encelade, Tétis, Dione, Rhea, et les autres là-bas, qui sont trop loin pour être sur ce schéma. Ça, c'est ce qu'on savait à peu près en 70, et j'aurais dit, mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors, j'aurais pu quand même, à deux heures, j'aurais meublé. J'ai dit qu'en 70, on comprend très bien l'origine des anneaux, je vous l'ai expliqué. On savait pourquoi ils étaient minces, Poincaré l'a expliqué, pourquoi ils avaient une division, celle de Cassini. Ça, c'est les résonances. Pourquoi ils étaient homogènes? Parce que c'est de la poussière qui tournicote. Pourquoi ils avaient des limites floues? Parce que la poussière, ça ne fait jamais des bords limites nettes. On savait tout. Ça, en gros, c'est la thèse de M. Braik, que vous connaissez tous, et qui raconte ça. Il dit, c'est très bien, parce que tout ce que je savais avec pertinence, eh bien, tout s'est avéré faux. Alors, en 70, toujours, on avait compris que Saturne était une boule de gaz froid. Il n'y a pas de sol sur Saturne, on ne se posera jamais sur Saturne. C'est surtout de l'hydrogène et de l'hélium à moins 480, moins 200 degrés. La masse volumique est très faible. Saturne flotterait dans votre baignoire si vous avez une baignoire assez importante pour le mettre. Et il y a une dynamique, ce qu'on voit, c'est la surface des nuages, deux nuages, puisqu'il n'y a que du gaz. Il y a une dynamique des nuages fort complexe. On avait déjà vu ça au télescope en 70. En 70, toujours, on connaissait 10 satellites. Alors, un très gros Titan que vous avez là, dont vous avez l'ombre sur le globe saturnien, six moyens plutôt, dont on en voit 4 ici, soulignés par les flèches bleues, deux autres doivent être soit hors champ, soit derrière Saturne, et on connaissait 3 petits satellites, trop petits pour être visibles sur cette photo. C'est une photo télescopique, et vous avez les anneaux qui sont quasiment vus par la tranche ici, donc vous voyez la finesse des anneaux quand on les voit par la tranche. Donc là, j'aurais fini ma conférence des années 70, et je vous redis merci, avez-vous des questions? Et vous n'auriez pas eu beaucoup de questions, parce que quand on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas beaucoup de questions, parce qu'on ne voit rien, et on explique très bien le rien qu'on voit. Les missions spatiales vont complètement révolutionner notre connaissance de Saturne, parce que là, on va avoir des données. Et on va voir que ce qu'on pensait être Saturne, ben, ce n'est pas ça du tout. Par exemple, rappelez-vous, les satellites sont des points. Et un géologue, c'est l'idéal, faire de la géologie là-dessus, il peut dire ce qu'il veut, parce qu'on ne voit rien. Et vous allez voir que chacun de ces points va se révéler un monde extraordinaire. Alors, la sonde Cassini-Huygens, voici la sonde Cassini, grosse comme quasiment une énorme voiture, disons un gros espace. C'est les Américains qui payent. La sonde Huygens, dont la taille est à la mesure du financement européen. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites les Élysées, un président de la République qui dit moins d'impôts, ça veut dire moins de recherche. Alors l'Europe, elle a donné ça. Et c'est ça. Ça, c'est à l'échelle de rapport scientifique Europe-États-Unis. C'est dramatique, mais on est obligé de l'admettre. Donc ça, la partie Cassini s'est mise en orbite autour de Saturne, elle y est encore. Et la partie Huygens s'est posée sur Titan le 14 janvier. Elle y est encore, mais enfin, comme ses batteries sont à plat, elle ne marche plus. Les Huygens fonctionnent sur batterie, Cassini fonctionne sur réacteur nucléaire. Donc lui, il a de l'énergie pour plus de 30 ans. Alors, la trajectoire de Cassini est un modèle du genre. Là, vous avez vu dans le plan équatorial de Saturne, vu par-dessus, donc perpendiculairement au plan équatorial de Saturne. La trajectoire est calculée pour, grosso modo, à chaque orbite, Cassini passe à côté d'un satellite. Alors, vous imaginez le problème physique. Déjà, on a deux corps principaux qui sont le Soleil et Saturne. Un corps moyen Titan. Six petits, les six satellites pas trop gros, plein de petits. À chaque fois évidemment, qu'on survole Titan ou un autre satellite, il y a une déviation. Donc il faut faire des tas de calculs pour que la déviation permette à Cassini, lors de la prochaine orbite, de passer de nouveau à côté d'un satellite qui déviera Cassini de telle façon que l'orbite suivante, on passe à côté d'un autre satellite, etc. Et donc toutes les orbites sont calculées pour 4 ans de fonctionnement, comme ça. Alors, il y a un moteur, on peut faire des petites corrections de trajectoire, mais on ne peut vraiment pas en faire beaucoup. Sans incertitude, la trajectoire pourrait se faire toute seule comme ça. Donc, très beau calcul de physique à faire. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance extraordinaire que nous avons. Imaginez les grandes expéditions scientifiques du 18e, 19e siècle où on découvrait la Terre. Maintenant, on découvre le système solaire. À l'époque, on découvrait la Terre. Les gens partaient. Ça, c'est M. Lacondamine, qui est parti sous ordre du roi Louis XV pour mesurer la longueur d'un degré d'arc. On voulait savoir si la Terre était aplatie au pôle ou étirée au pôle. Pour ça, il fallait mesurer la longueur d'un degré d'arc en Laponie et en Équateur. Et M. Lacondamine est parti, il a dû partir 9 ans là-bas. Alors il est parti, et tout ce qu'il voyait, ben, il l'engrangeait, il prenait des notes. Mais l'intelligentsia scientifique ne savait absolument pas ce qui se passait. Il devait attendre le retour de l'expédition pour avoir en différé. Alors que nous, grâce à au web et à la politique de communication de la NASA, où ils donnent tout, une photo prise dimanche et sur le web le mardi, c'est quand même extraordinaire, on est un peu dans la position d'une petite souris qui suivrait très discrètement l'expédition, mais qui verrait tout. et qui pourrait tout interpréter à son niveau de petite souris, on n'est pas la NASA. Alors on va jouer à la petite souris, et on va suivre, objet par objet, ce qu'ont fait Cassini et Huygens. Alors, la planète elle-même, d'abord le globe planétaire, ça c'est une image voyagère. On a vu qu'il y avait des, on voit avec les images voyagères des bandes, des vents violents, 1500 km/h, des tourbillons, des cyclones, un champ magnétique. Alors je vous montre quelques images de ça. C'est des images voyageurs, donc qui datent de 81, qui ont 24 ans. Alors ça, c'est le globe de Saturne en couleur naturelle. On peut renforcer les couleurs pour mieux voir les détails, même complètement les renforcer, ce qui les rend complètement artificiels. Mais on voit bien mieux les détails des bandes nuageuses. Mais n'étant pas météorologue, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vous montre des belles photos, couleurs renforcées. Et vous voyez que des bandes nuageuses, des tourbillons, il y a vraiment de la dynamique des fluides à faire là-dedans. Si vous aimez la physique des fluides, vous pouvez vous régaler. Alors c'est là-dedans, dans ces tourbillons, que les nuages, les vents vont à plus de 1500 km/h. Alors il y a un champ magnétique qui est dû au courant de convection de l'hydrogène fortement comprimé, qui est métallique à l'intérieur. Et ces champs magnétiques font des aurores boréales. Vous voyez ici les deux cercles auroraux sur Saturne. C'est une photo au télescope spatial. Et s'il y avait des Saturniens là-dessous, ce qu'ils verraient dans le ciel, c'est ce qu'on voit nous près des pôles, à savoir des aurores boréales. Donc il y a un champ magnétique sur Saturne. Et pour l'instant, pour un profane comme moi, Cassini n'a pas apporté de résultats nouveaux spectaculaires sur le globe saturnien. Il y a des vents qui sont toujours à 1500 km/h et tout ça. Alors, je vais quand même vous montrer quelques belles images. En noir et blanc, la NASA n'ayant pas publié de l'image couleur, tout ça, elle ne prend pas d'image couleur, elle prend des images en lumière monochromatique, elle fait des reconstitutions faussement colorées. Elle en a très peu publié. Alors, je vous montre des images de tourbillons. Alors, vous voyez. Les tourbillons changent, il y a 20 heures terrestres d'intervalle entre ces deux images. Et on voit que, par exemple, cette espèce de grumeau là, il est là, et il change. Il y a des changements sur 20 heures. Les tourbillons changent. Alors ça, c'est l'écoulement tourbillonnaire. Parfois, l'écoulement est totalement laminaire. Là également, si vous aimez la mécanique des fluides, vous pouvez vous régaler. Et si vous aimez l'interaction entre des gaz et sur un corps tournant, si on regarde au niveau du pôle sud, l'axe de rotation de Saturne passe par là, on voit qu'il y a une interaction évidente entre la rotation de Saturne et la circulation nuageuse, quand on voit la forme des bandes nuageuses autour du pôle sud de Saturne. Là encore, vous êtes prof de physique, vous devriez pouvoir, peut-être pas au niveau collège, mais je ne sais pas quel niveau vous avez, faire de la physique avec ça. Donc c'est tout ce que je vais vous dire sur Saturne, parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. Alors les anneaux, ce n'est pas ma spécialité non plus, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'on a trouvé que je vais un peu insister un peu plus. Donc ça, c'est une photo voyageur des anneaux de Saturne. Pendant longtemps, c'était ma photo voyageur préférée des anneaux de Saturne. Quand vous regardez Saturne depuis la Terre, j'espère que vous avez tous vu Saturne au télescope, la Terre est tout à côté du Soleil vis-à-vis de Saturne. Donc on voit toujours Saturne comme un disque quasiment plein, on voit toujours un plein Saturne. Il n'y a pas de quartier de Saturne, il n'y a pas de croissant de Saturne. Parce que la Terre et le Soleil sont quasiment confondus. Par contre, une sonde qui passe derrière Saturne, ben évidemment, peut voir des quartiers ou des croissants de Saturne. Et cette photo, je la trouvais extraordinaire. Donc, dans les années 81, vous avez un croissant de Saturne, les anneaux de Saturne, l'ombre des anneaux sur Saturne et l'ombre de Saturne sur les anneaux. Donc, ça, c'était ma photo préférée en 82. Je rentrais au CNRS. C'était longtemps déjà. Alors, les anneaux vus par voyageurs, rappelez-vous les anneaux flous, homogènes, des années 70, qu'on voyait au télescope, mais j'étais flou parce que les télescopes étaient mauvais, parce qu'il y avait de la turbulence atmosphérique. Quand on passe à côté, eh bien, ils sont tous flous. Les anneaux, c'est une multitude de petits annelés parfaitement individuels et très nets. Ça, c'est l'anneau A, c'est la division de Cassini, c'est l'anneau B, ça, c'est l'anneau C. L'anneau D serait quelque part par là. Alors, on s'est tout de suite demandé, en 81, qu'on a vu ça, mais quelle physique est à l'origine d'un tel agencement. À l'époque, on dirait que ça ressemble à un micro-sillon. Les jeunes savent peut-être plus ce que c'est qu'un micro-sillon. Un micro-sillon, un CD, ça ressemble un peu à ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ces rayures fines qu'il y a dans les anneaux? Alors, non seulement on a vu plein de rayures fines sur les anneaux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un anneau qu'on a découvert donc, en 80, qu'on appelle l'anneau F, qui était extrêmement mince et séparé des restes. Et là, pareil, comme un anneau isolé, peut-il rester aussi fin? Alors, face à ces observations, les théoriciens ont fait de la théorie. Et il y avait d'autres observations, là, je vais mal préparer mon cours. On s'est aperçu que l'anneau F qui est ici, qui était très fin, était encadré par deux tout petits satellites qu'on a découverts à l'occasion, qu'on appelait les satellites gardiens. C'est Prométhée et Pandore, si je ne m'abuse. Et alors, ils ne tournent pas à la même vitesse. Là, c'est une photo où ils sont voisins l'un de l'autre. Mais il est évident que celui-là tourne plus lentement que celui-là en fonction de la loi de Kepler. Donc celui-là, progressivement, va le doubler. Mais l'anneau F qui est tout seul est gardé à droite et à gauche par deux satellites qu'on appelle les Shepard en anglais. Et là, il y a la division de Encke qui a été découverte au télescope il y a déjà bien longtemps. Voyager a trouvé que dans la division de Encke, il y avait un satellite. Alors qu'on voit très mal sur les images voyagères, mais qui est là, qu'on appelle Pan. Alors, face à ça, les anneaux sont très structurés. Il y a un anneau fin qui est tout seul. Il y a une division avec un satellite dedans. Les physiciens théoriciens se sont remis au travail. Ils ont dit, comment on peut faire ça? Et ils ont trouvé, avec la physique la plus classique du terme, ils n'avaient simplement pas pensé à le faire avant, parce qu'ils n'avaient pas de données qui leur suggéraient de le faire. Mais on s'est aperçu que, voilà un nuage de poussière. Voici un satellite et voici un autre satellite. En vertu des lois de Kepler, ce satellite va plus vite que les poussières de l'anneau et celui-là va moins vite que la poussière de l'anneau. Donc le satellite double les poussières et là les poussières doublent le satellite. Eh bien à chaque fois on va prendre le satellite qui double, à chaque fois que les poussières, que le satellite double les poussières, il y a des interactions gravitationnelles, des microforces de marée, des calculs très compliqués, mais ce satellite laisse communique une toute petite quantité d'énergie aux poussières. Donc, comme il va plus vite que les poussières, il accélère les poussières. Comme il accélère les poussières s'éloignent de Saturne. Ici, c'est l'inverse. Le satellite va plus lentement que les poussières. C'est comme si c'était les poussières qui doublaient le satellite. Le satellite est un ralentisseur. Le satellite communique, ralentit les poussières. Les poussières ralentissant, elles descendent. Donc, l'anneau n'a aucune raison de s'étaler. Tout au contraire, les deux satellites le maintiennent confiné comme ça. C'est de la physique complexe, mais de base, du 19e siècle. Mais personne n'avait jamais cherché à faire ce genre de calcul. L'interaction d'un petit satellite, quand je dis petit, c'est une centaine de kilomètres de diamètre, sur des particules de l'ordre du centimètre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ordre de grandeur, de différence de masse. Et le résultat de la mécanique, c'est ça. Alors, ça peut confiner si vous avez deux satellites, un anneau entre. Et si vous avez un satellite tout seul dans l'anneau, il fait le ménage. Il repousse à droite, il repousse à gauche, il peut faire une division, la division de Encke, avec Pan au milieu. Donc, si j'avais fait ma conférence en 82, après Voyager, ben j'ai dit, voilà, mesdames et messieurs, merci. Voilà ce que sont les anneaux de Saturne. Alors, je répète, l'anneau A, l'anneau B, l'anneau C, l'anneau D qu'on ne voit pas, l'anneau E a été découvert au télescope, il est par là, l'anneau F, qui a été découvert par Voyager, qui est tout petit, confiné, et qui est là. Eh bien, là encore, Cassini a complètement révolutionné, sans penser que c'était bien, on expliquait bien les choses, en particulier une symétrie sphérique évidente, enfin, circulaire évidente, puisqu'on est dans le plan, et Cassini a montré que tout ça, c'était faux. Parce que, là encore, on a gagné un ou deux ordres de grandeur de résolution. Alors, Cassini étudie les anneaux avec un luxe de détails, et ça ne fait que commencer. Parce que la mission n'existe que depuis un an et demi, et pendant encore 3 ans, elle va étudier en particulier les anneaux. L'orbite est calculée de telle façon qu'au début, elle était presque dans le plan des anneaux, et progressivement, elle va devenir perpendiculaire aux anneaux. Donc on ne voit absolument pas les anneaux avec le même angle d'éclairement, la même phase lumineuse, etc. Donc il y a toujours des données nouvelles, parce que l'angle de phase entre la sonde, le Soleil et les anneaux change continuellement. Donc, par exemple, voici une photo qui pourrait être une photo voyageur. Voici la meilleure des photos voyageurs qu'on pourrait avoir, qui est un détail de ça. Mais si on regarde simplement là, vous voyez les anneaux. Alors là, c'est Cassini, l'anneau A, l'anneau B, l'anneau C qui est très ténu. On voit Saturne à travers l'anneau C. Et on voit sur Saturne l'ombre de l'anneau C. Vous avez ici l'ombre des anneaux qui est comme ça, l'ombre de l'anneau C, vue à travers l'anneau C. Comme ça. Donc c'est un joli spectacle. Il y a des astronomes amateurs dans la salle. Ils verront jamais ça de leur vie avec leur télescope. Alors quelques images Là, vous avez un satellite, Encelade, l'anneau B, la division de Cassini, qui n'est pas vide du tout. La division de Cassini à peu près le diamètre de la Lune. C'est-à-dire que la Lune pourrait traverser la division de Cassini sans se cogner sur les bords. L'anneau E, avec ici la division de Encke, dont on va reparler tout à l'heure. Alors, une vue presque de dessus de la division de Cassini, qui est à peu près la taille de la Lune, l'anneau B, l'anneau A, vous voyez que la division de Cassini n'est absolument pas vide. Et là où il y a exacte résonance entre les particules et mi-masse, c'est ici. Donc c'est ici qu'il y a l'exacte résonance de 1 entre les particules et mi-masse. Et effectivement, c'est très très vide. Alors il y a une autre partie très vide qui est ici, qui n'est pas expliquée par une résonance, pas à ma connaissance en tout cas, et qui pour l'instant n'est pas expliquée. Quant à pourquoi l'intérieur est structuré comme ça, je ne peux pas vous le dire. Et la phrase « je ne peux pas vous le dire », ce n'est pas la première fois ni la dernière que vous allez l'entendre. Alors, pour vous montrer que les anneaux sont d'une finesse exceptionnelle, ils font moins de 500 mètres d'épaisseur. Là, ce n'est pas tout à fait vu par la tranche. S'ils étaient parfaitement vus par la tranche, on ne les verrait pas. Là, c'est vu presque par la tranche. Et vous voyez les anneaux extrêmement minces, avec deux satellites qui sont dans le plan équatorial de Saturne, comme les anneaux. Et ici, vous voyez les anneaux, l'ombre des anneaux projetés sur l'hémisphère nord de Saturne. En ce moment, c'est l'été sur l'hémisphère sud de Saturne et l'hiver sur l'hémisphère nord de Saturne. C'est pour ça que le pôle sud est éclairé, j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous montrer le pôle nord éclairé, il est dans la nuit perpétuelle. Le soleil est quelque part en bas, par là-bas. Et là, vous avez les anneaux et l'ombre des anneaux sur Saturne. Alors, on va étudier l'anneau F. Je vous rappelle, l'anneau F, c'est ce petit anneau tout petit, tout fin, tout isolé, qui est à l'extérieur. En juillet, on est passé à côté et l'anneau F n'est absolument pas un trait simple. Il est complètement au moins triple, 1, 2, 3, et la partie interne est déjà un peu brisée. On va zoomer sur cet anneau F. Vous avez donc ces trois parties, 1, 2, 3, et la partie interne qui a des lignes sombres dedans, que les Américains ont appelé des gores, ça veut dire des blessures, des déchirures. Film gore, c'est un film avec beaucoup de blessures. Qu'est-ce qui peut... Et il n'y a pas de symétrie circulaire, hein, ces structures-là sont en biais par rapport à l'ellipse keplérienne. Alors, là, vous avez des gores que vous voyez là. Là, vous avez un des satellites internes, Prométhée, un des deux gardiens. Et chose incroyable, il y a un pont de matière, ténu mais visible, entre Prométhée et l'anneau, qui est ici violemment surexposé. Il y a un pont de matière, il y a donc échange entre Prométhée et l'anneau. Comment ça peut se faire? Par Kepler, c'est tout à fait impossible vis-à-vis des lois de Kepler, que quelque chose reste toujours perpendiculaire entre l'anneau et le satellite, parce qu'en vertu de Kepler, ça devrait de plus en plus s'incliner, les particules internes tournant plus vite que les particules externes. Vu que c'est toujours perpendiculaire, c'est que c'est dynamique. C'est un anneau, cette pont de matière se reconstitue tout le temps. Là encore, que se passe-t-il? À ma connaissance, la NASA n'a pas encore publié. Prométhée est là, satellite interne. Là, c'est une vue des anneaux qui ont été rectilinisés et qui couvrent à peu près un sixième du total du cercle des anneaux. Et vous voyez que les gores sont déclenchés par le passage de Prométhée. Prométhée va plus vite que les particules. Prométhée double les anneaux. Et c'est derrière Prométhée qu'il y a ces gores. Et les gores, eux, obéissent aux lois de Kepler parce qu'ici, ils ne sont presque pas inclinés. Et plus on s'éloigne, plus ils sont inclinés. Les gores, c'est un vide de particules, et ce vide de particules, plutôt les particules à droite et les particules à gauche, obéissant aux lois de Kepler, celles d'ici vont plus vite que celles du haut, donc progressivement, le gore se rabat sur l'ellipse keplérienne. Pourquoi Prométhée fait-il des gores avec cette périodicité étrange? Pourquoi c'est tous les temps de kilomètres? Je ne saurais vous le dire. Encore plus complexe, en mai, on s'est aperçu que la partie la plus lumineuse de l'anneau F, on est toujours dans l'anneau F, dessinait des contours, pour ne pas dire des tours de con, et était complètement tarabiscotée. Et là encore, on était totalement différent de l'orbite de l'ellipse keplérienne, et on s'est aperçu que l'essentiel de ces perturbations était dû au gardien, le deuxième gardien, Pandore. Ces perturbations sont au niveau de Pandore et suivent Pandore. Alors, vous voyez la complexité de cet anneau F. Vous avez Pandore à l'extérieur qui fait ses ondulations, Prométhée à l'intérieur qui fait des gores et ce pont de matière, Il y a donc une dynamique extraordinaire à faire là-dedans. Bon, c'est évidemment à l'aide d'interactions gravitaires entre des corps d'à peu près 100 km et des poussières, mais il est tout à fait possible que ces poussières soient légèrement électrisées, qu'il y ait des phénomènes électriques, magnétiques, et là vous êtes dans la très belle physique que vous pourriez faire. Alors, on était à l'anneau F, qui est à l'extérieur, on va étudier l'anneau A, en particulier la division de Encke, qui est celle-là, et la division de Killer, qui était le tout petit trait noir que vous avez là, qui a été découvert par Voyager en 81. Alors, en 2004, en juillet, le premier passage, Cassini découvre que la division de Encke n'est pas vide, qu'il y a au moins deux petits anneaux à l'intérieur, et elle découvre que les bords de l'anneau sont ondulés, avec des choses qu'on n'appelait pas encore des gores à l'époque, en 2004, mais qui ressemblent fichtrement aux gores qu'on a vus dans l'anneau F. Et on n'a absolument pas bien compris qu'est-ce que c'était que ces ondulations, jusqu'à ce que, en mai 2005, on s'aperçoive que ces ondulations sont déclenchées par le passage de Pan. Pan qui est un satellite à l'intérieur. Alors là, vous avez une photo exposition normale, vous avez Pan ici, de la division de Encke. Toujours pareil, Pan va plus vite que l'extérieur et moins vite que l'intérieur. Donc Pan se fait doubler par les particules de l'anneau interne et double les particules de l'anneau externe. Et vous voyez que ces ondulations sont derrière pour l'anneau externe et devant pour l'anneau interne. C'est donc le fait de doubler ou de se faire doubler par le satellite qui ondule les bords des anneaux et qui fait cette structuration extraordinairement étrange. Alors, chose également très stupéfiante, c'est que je vous ai démontré, enfin, j'ai dit qu'on savait démontrer qu'un satellite faisait le vide autour de lui. Et bien, la Pan, c'est à son niveau qu'il y a ces petits anneaux supplémentaires. Il est juste au niveau de Pan. Donc, la Pan ne fait pas le vide. Au contraire, il y a plein de poussières qui sont co-orbitales à Pan. Et alors, par contre, là, il y a un autre petit anneau de poussière. Je ne sais pas à quoi il est dû. Peut-être que dans d'autres passages, ils vont voir s'il n'y a pas un autre satellite quelque part. Ça, c'était la division de Encke. La division de Killer, je rappelle la division de Killer, c'est ce tout petit trait que vous avez là. La division de Killer, qui fait 250 km de large, hein, c'est la largeur d'un gros département français, on a découvert un satellite à l'intérieur qui n'a pas encore de nom. Et c'est pareil, les particules qui doublent, ça fait des vagues, et les particules qui se font doubler, ça fait des vagues aussi. Donc là encore, une interaction gravitaire entre ce petit satellite de rien du tout et les particules des anneaux. Alors l'anneau A, si on zoome sur l'anneau A, c'est trois zooms successifs. J'ai écrit comme légende quel mathématicien, j'aurais dû corriger, quel physicien, parce que je fais parler des physiciens, fou à calculer ces espacements régulièrement variables. Quelle est la physique qui fabrique ça? Il y a d'histoires de résonance, enfin c'est trop complexe pour que je donne une tentative de début d'explication. Il y en a, mais je suis totalement incapable de les comprendre. Alors ça c'est la structure de l'anneau A. Alors autre chose qu'a fait Cassini, la NASA ne dit pas trop comment, elle dit pas trop le mode d'emploi plutôt, mais elle peut calculer la moyenne de la taille des particules. Et là c'est assez typique de la NASA, publie énormément. Toutes les photos prises le jour J, enfin arrivant à la NASA le jour J, parce qu'elles peuvent être prises plusieurs jours avant, sont mises sur le web le jour J plus 1. Officiellement, toutes. Je vais vous montrer des photos de Réa, qui sont que sur l'endroit qu'on appelle les raw images, les images brutes, non traitées, il y a encore plein de défauts. Et ils publient également de temps en temps des données partielles. Ils choisissent ce qu'ils publient. Par exemple, là, ils ont publié une taille des anneaux, des particules des anneaux. Ils n'ont pas mis l'échelle, vous voyez, ils ont mis petit et grand. Ils n'ont pas mis ce que c'était, là. Alors, c'est bien, on voit que c'est petit à l'intérieur, grand à l'extérieur, c'est tout à fait conforme à la limite de Roche. Une grosse particule à l'extérieur, ça va, une grosse particule à l'intérieur se fait casser en morceaux. Donc là, c'est tout à fait cohérent avec la physique normale. Là, je ne peux pas vous dire la taille de petit et grand. Ils ont publié ça en juillet 2004. Alors, il n'y a pas longtemps, hein, il y a un mois, ils ont publié cette autre photo. Ils ont dit qu'ils obtenaient cette granulométrie avec des histoires de radio, de profondeur optique, où là, ils peuvent mesurer la taille des plus petites particules. Pas la taille moyenne, mais la taille des plus petites. Alors, quand c'est rose, c'est qu'il n'y a pas de particules plus petites que 5 cm. Vert, il y a des particules inférieures à 5 cm. Et quand c'est bleu, comme par exemple dans la division de Killer, c'est qu'il y a des particules inférieures à 1 cm. Et ça, n'importe quel physicien pourrait vous montrer qu'une particule inférieure à 1 cm, ce n'est pas possible. Parce qu'on est dans le vide, il fait moins 190 en plein soleil, et dans le vide, à moins 190, la glace, ça se sublime. Lentement, certes, mais ça se sublime quand même. Et une particule d'un centimètre de diamètre, en quelques millions d'années, aurait disparu par sublimation. Hein, je crois qu'on fait à peu près une sublimation d'un mètre par milliard d'années, l'ordre de grandeur, hein, donc un centimètre, ça fait dans 10 millions d'années. Or, il y en a. S'il y en a, c'est qu'elles sont perpétuellement fabriquées et qu'il y a une usine à fabriquer de toutes petites particules là-dedans. Alors, quelle est peut-être cette usine? Quand vous voyez les vagues qu'il y a dans ces anneaux externes, déclenchées par le passage des satellites, il est très probable que ces vagues, entre guillemets, font des collisions et que les particules se cassent, d'où les petites particules que l'on trouve, surtout dans les parties les plus externes. Là encore, ça n'avait pas été prévu. Alors, autre chose, on y reviendra abondamment, que peut faire Cassini, c'est dans les longueurs d'onde du infrarouge, on va dire autour de 5 cm, entre 1 et 5 microns de longueur d'onde, les solides ont plein de raies d'absorption. La glace a des raies d'absorption, les hydrocarbures ont des raies d'absorption, les silicates ont des raies d'absorption, les oxydes de fer ont des raies d'absorption. Donc, tous ces anneaux sont éclairés par le soleil, qui a un spectre infrarouge thermique, normal, une belle cloche classique. Et en regardant les longueurs d'onde infrarouge qui manquent, on en déduit l'abondance, on a des raies d'absorption par réflexion, et on voit que les anneaux, ce qui domine de loin, c'est la glace d'eau, pure. Quand c'est bleu, c'est de l'eau bien pure, vous mettriez dans votre verre sans problème. Quand c'est rouge, c'est que la glace est salie par de la matière organique, donc des hydrocarbures pleins de liaisons CH. Là encore, la NASA publie ses belles photos, mais n'étalonne pas sa courbe. Donc, je ne peux pas savoir, en fonction du caractère plus ou moins bleu, plus ou moins violacé, le pourcentage en matière organique. Mais vous voyez que la NOAA, globalement, est assez fait de glace pure. Par contre, la division de Encke est pleine de matière organique, ce qui est extraordinairement étonnant. Quand la division de Cassini aussi. Et si on regarde l'anneau B, c'est celui qui est là, alors ça devient de la démence, alors c'est un morceau de l'anneau B, parce qu'il est extrêmement structuré et ça ne se mélange pas. Un niveau de glace assez pur peut voisiner un niveau de glace assez sale sans se mélanger. Alors où on suppose que ça ne se mélange pas depuis 4 milliards et demi d'années, l'âge du système saturnien, où on suppose que les anneaux sont beaucoup plus jeunes que ça, donc il y a des tas de problèmes actuellement non résolus. Mais là encore, expliquer un non-mélange de particules comme ça, c'est de la folie. Voilà sur Saturne et ses anneaux. C'était pas mon domaine, donc j'ai fait que commenter ce que raconte la NASA.